Les podcasts Obsession Collective vous souhaitent une très bonne écoute.
Alan, regarde. Elles volent la nuit. Mieux vaut s'enfuir. Ces choses ailées ne font pas rire. Qu'est-ce que c'était ?
J'en sais rien.
Je t'en prie, range-le. D'accord.
Oh non. Le « je pense » que je les ai lancés.
Le « je pense » ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
Dans la jungle, tu attendras. Un 5 ou un 8 te délivrera. Dans la jungle, tu attendras. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de La Voix des Masques, le cinéma en appel masqué. Je suis Hélène Godin, docteur en études cinématographiques et je suis comme toujours accompagnée de mon fidèle acolyte Clément Pédessier, docteur en sciences de l'imaginaire. Salut Clément, comment tu vas ?
Eh oui, toujours là, toujours présent, ça va et toi ?
Eh ben écoute, très bien, éclaté, je t'avoue, pour cet épisode.
Oui, bah je pense qu'on est dans le même état tous les deux. On a fait un petit craquage là avant de démarrer l'enregistrement, ça augure bien.
Écoute, oui, ça va être l'épisode à la cool, d'autant plus que pour aujourd'hui, on a choisi un super film qui est un film de notre enfance à tous les deux, qui est le film Jumanji, film américain réalisé par Je l'ai répété 3-4 fois avant l'enregistrement, en plus, et je me suis dit, putain, Hélène, faut pas que tu te gourres.
C'est dur à dire très vite. Hein.
C'est dur à dire, hein. On est d'accord.
Voilà, donc, Johnston.
Réalisé par Joe Johnston, et donc voilà. Sorti en 1995, j'avais 2 ans.
Grand Dieu.
Il s'agit, en l'occurrence, ici, de l'adaptation du livre pour enfants Jumanji, de Chris Van Allsburg, qui lui a été publié en 1981. Pour cet épisode, on va se centrer uniquement sur le film sorti en 1995, même s'il y a eu plusieurs suites réalisées très récemment. On va, nous, se focaliser uniquement sur le film de 1995 et faire un petit détour sur la fin de l'épisode sur la série d'animation. Dans ce film, on va retrouver dans les rôles principaux Robin Williams, Bradley Pierce et une certaine Kirsten Dunst. Globalement, le film se passe sur 3 époques. On a une première scène en 1869, on a une première partie du film en 1969, et le reste du film se passe en 1995. Le film se passe dans la ville de Brantford et tourne autour, au départ, d'un certain Alan Parrish qui découvre par hasard sur un chantier archéologique qui est à côté de l'usine de son père, une espèce de grosse malle en bois qui contient un jeu qui s'appelle Jumanji. Évidemment, pour l'existence du film, il décide de le ramener chez lui. Le soir venu, il a une grosse dispute avec son père, à la fin de laquelle il s'apprête à fuguer. Et juste au moment où il sort de chez lui, il reçoit la visite de la seule personne qui est son ami, parce que c'est un petit garçon qui a eu une enfance un petit peu compliquée, une scolarité un peu compliquée. Il reçoit donc la visite de Sarah. Il lui dit « Viens, j'ai un jeu à te montrer ». Il décide alors de débuter une partie et ça tourne mal et Alan disparaît dans le jeu. Effarée, Sarah fuit et la partie se suspend. On fait un bond dans le temps en 1995 pour tourner cette fois-ci autour de 2 autres personnages, Judy et Peter, 2 orphelins qui emménagent avec leur tante Nora dans l'ancien manoir Parrish qui est donc abandonné depuis des années avec plein de rumeurs très très sympathique. Ils explorent la demeure et soudain, ils entendent ce son caractéristique qui a marqué toute une génération, le tambour qui appelle les joueurs de Jumanji. Ils découvrent le jeu et Judy décide de commencer une partie. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle continue avec son frère la partie qui a été lancée 26 ans plus tôt. Soudain, suite à un jeu de dés, Peter libère Alan et tout part en sucette. C'est un film qui a été moyennement bien reçu dans un premier temps, notamment par la critique. Il doit en partie ses mauvaises critiques au rythme très décousu de son scénario, qui a été réécrit de nombreuses fois, avant que son acteur principal, donc Robin Williams, n'accepte de camper le rôle d'Alan Parrish. On va remarquer à la fin du film que le jeu n'a pas seulement le pouvoir d'aspirer ses joueurs dans un monde terrifiant, mais qu'en plus de ça, il permet de retourner dans le passé par aucune espèce de cohérence, ce qui permet aux protagonistes Sarah et Alan de repartir en 1969, la date à laquelle ils avaient donc commencé à jouer, et de faire en sorte de rencontrer les parents de Peter et Judy avant qu'ils ne disparaissent. Happy ending, traditionnellement américain. Et les critiques très mitigées de la presse n'ont pas empêché le film d'avoir un succès fou et de marquer durablement l'enfance des personnes nées, disons, entre 1985 et 2000. Le film a donc donné la réalisation d'une franchise qui comporte des remakes dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et donc une série d'animation qui a été créée par Bob Adcock et Jeff Myers. Clément, quel est ton avis sur le film ?
Bah, je pense qu'on s'en doute, hein, c'est un film qui m'a énormément marqué dans mon enfance. C'est un film typique de son époque. C'est vraiment, ça sent les années 90 très fort. Et puis, je pense on m'a posé la question quand j'ai fait l'annonce de l'émission, et c'est une question légitime, c'est pourquoi parler des masques dans Jumanji ? C'est vrai qu'on peut poser la question parce que, a priori, il n'y a pas de masques dans Jumanji, peut-être mis à part dans la série d'animation, puisque la série d'animation a cette qualité incroyable de nous faire vivre épisode après épisode des virées dans la jungle de Judy et Peter, puisque le but de la série animée, c'est que Alan a oublié, enfin n'a pas vu plutôt son énigme qui lui permettrait de sortir du jeu. Et en fait, tout l'enjeu de la série animée, c'est d'aider Alan à retrouver son énigme et l'aider à sortir définitivement de Jumanji. Et il y a une tribu de primitifs qui portent des masques dans cette série animée. Mais dans le film, effectivement, ce n'est pas le cas. A priori, ce n'est pas le cas. Mais pour moi, les masques sont extrêmement métaphoriques, extrêmement symboliques dans Jumanji. Déjà, par les effets spéciaux qui sont, ma foi, d'une assez bonne qualité pour l'époque. Alors, pour avoir revu le film qui a presque 30 ans maintenant, alors effectivement, il y a des trucs en termes de CGI haute qui ont un poil vieilli, on ne va pas se le cacher. Par contre, effectivement, au niveau des effets spéciaux et notamment un travail de maquillage, c'est exceptionnel. Déjà parce que il y a vraiment deux Alan, pas trois Alan, si on compte le Alan enfant, déjà d'une part. Et puis, il y a vraiment, à l'âge adulte, deux Alan. Il y a vraiment le Alan à figure d'homme sauvage, qui sort de la jungle avec des feuilles de bananier partout et qui vraiment, d'ailleurs, se réadapte à la civilisation de manière très rapide, pour le coup. Et il y a vraiment le moment où Alan, symboliquement, se rase. Donc, ce qui, dans le film, symbolise vraiment le passage à l'âge adulte, que le film peut considérer comme étant le cas, c'est-à-dire quand un homme se rase pour la première fois tout seul. D'ailleurs, Judith lui en fait la remarque, parce qu'il s'est un peu massacré avec les lames de rasoir. Mais vraiment, Robin Williams subit une transformation physique presque trop radicale. On a presque l'impression qu'entre le Alan sauvage et le Alan en costume, on est en costume de ville, on n'est plus sur la même personne, alors qu'on est bel et bien avec Robin Williams. Autre chose, il y a un moment où Peter triche pour essayer de finir la partie. Et en fait, Jumanji, on l'a compris, hein, c'est un jeu magique, maléfique, qui a évidemment une conscience. Il sait parfaitement ce qu'il fait, le jeu. C'est une figure prédatrice. Hein. On peut dire qu'il attire les enfants. Enfin, il attire les joueurs, mais là, pour le coup, il attire les enfants à lui. Et quand on triche, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Et en fait, il fait régresser Peter à l'état de garçon-singe. Et là aussi, le travail de maquillage est assez classe parce qu'effectivement, le petit garçon prend vraiment la figure du singe et devient membre de la jungle. C'est d'ailleurs à un point tel que la jungle finit par prendre le pas complètement dans la maison, ce qui fait que les joueurs sont finalement projetés dans Jumanji sans être aspirés eux-mêmes dans le jeu. Et puis surtout, je crois que le plus gros travail de maquillage et le masque le plus symbolique et le plus incroyable de ce film, c'est le père d'Alan, alias Jonathan Hyde, qui joue également Van Pelt. Pendant très longtemps, cet antagoniste, ce méchant, donc c'est un personnage du Jumanji, c'est un chasseur habillé en habit colonial qui, la figure prédatrice complètement, qui traque Alan Parrish. Alors, on ne sait pas, dans le film, on ne sait pas pourquoi. La série en fait un antagoniste récurrent et on en apprend un peu plus sur pourquoi il traque Alan. Mais d'un point de vue strictement symbolique dans le film, et j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte parce que quand j'étais petit, ça ne m'a pas sauté aux yeux, mais il faut savoir que Van Pelt et le père d'Alan sont campés par le même acteur, c'est-à-dire Jonathan Hyde. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que du coup, alors à moins de s'attarder sur son visage, sur ses yeux, sur son expression, on ne voit pas que c'est le même acteur. Ce qui veut dire que le travail de costume et de maquillage est phénoménal sur ce personnage. Et évidemment, en termes symboliques, c'est presque un cliché terrible de dire ça, mais c'est un fait. Tout le problème d'Alan Parrish, c'est qu'il a brisé le lien avec son père. D'ailleurs, tu en parleras tout à l'heure, Hélène, mais ce film a des côtés dramatiques et horrifiques absolument terribles. Alors même qu'il est adapté d'un film pour enfants, mais je pense que même s'il a une dimension familiale, il y a vraiment des scènes dont l'impact émotionnel et visuel peut limite choquer les gamins, quoi, vraiment. Hein. Et Van Pelt a ce côté terrifiant, parce que c'est vraiment un chasseur d'hommes. Et tout l'enjeu du film, ça devient vraiment l'antagoniste principal. Il personnifie Jumanji, au bout d'un moment, parce que les dangers de la jungle deviennent quasiment secondaires à partir du moment où Van Pelt débarque dans la maison et se met à traquer Alan pour l'abattre, tout simplement. Et le moment où Alan parvient à terminer la partie et à surpasser le jeu, c'est le moment où symboliquement, dans une perspective un peu désuète, hein, un peu mascu, il faut être franc, le moment où il affronte sa peur comme un homme, comme le dit le film, comme le dit Van Pelt, comme le dit... Voilà. On a vraiment, de la part du père Parrish, on a vraiment ce côté, tu dois être un homme, donc tu dois affronter tes peurs, tu dois te battre, tu dois... Voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu... on est sur la force physique, on est sur le fait d'affronter ses peurs, de pas fuir comme un lâche. Enfin, voilà, on a un petit peu cette perspective-là, on est en 95. Bon, c'est encore très, très usuel dans le discours, mais il n'en reste pas moins que la relation entre Van Pelt et Alan Parrish est super intéressante parce que précisément on a vraiment cette notion on a cette notion du trauma déjà. Je veux dire, Sarah Whittle, donc l'amie d'enfance d'Alan qui va se retrouver obligée de finir la partie avec eux, sa vie a été brisée, hein, et comme on la comprend, la pauvre, elle a vu un gamin se faire aspirer dans un jeu, elle s'est fait poursuivre par une bande de chauves-souris. Et personne ne l'a cru, tu m'étonnes, personne ne peut croire ça. On a même accusé le père d'avoir tué son fils parce que personne ne pouvait entendre que le jeu l'avait aspiré. D'ailleurs, il est à noter qu'apparemment personne n'a trouvé le jeu avant Peter et Judith, ce qui est un peu étrange dans la narration d'ailleurs. Pourquoi personne n'a trouvé ce jeu finalement? Comme si le jeu s'était volontairement caché et attendait son moment. Enfin bref. Ça fait partie peut-être effectivement des petites incohérences du scénar, on se dit, c'est étrange. Bref, ça ne gâche rien au plaisir du film, mais toujours est-il que Jumanji porte vraiment l'idée de récupérer sa vie, quelque part. Il y a vraiment... C'est un objet maléfique, parce que il fait pas du bien autour de lui, le jeu, mais par contre, il est fair-play, dans le sens, une fois que la partie est terminée, il l'autorise à reprendre effectivement, comme tu le disais, la vie là où on l'avait laissée. Et en fait, Alan va avoir ce privilège qui n'existe pas ailleurs de pouvoir redémarrer sa vie, dans le sens où il va demander pardon à son père et il va renouer le lien avec son père. Alors que justement, en 69, il est parti 5 minutes, mais lui, en termes de vécu, il a vécu 26 ans sans son père. Il a vécu, il a vécu tout seul dans la jungle. Il a vraiment, Donc, c'est vraiment l'idée d'une vie qui s'est brisée et qui reprend comme si rien ne s'était passé. Et quelque part, à la fin du film, il supprime Van Pelt de sa vie. Il supprime la figure de Van Pelt, puisqu'on comprend que ce qui a fait naître Van Pelt, en termes, on pourrait presque dire psychanalytiques, ce qui a fait naître Van Pelt, ce qui a fait naître la peur du chasseur, bah, c'est le fait qu'il se soit engueulé avec son père 26 ans plus tôt. Je pense qu'on peut considérer, un peu comme le Hitcher de Rutger Hauer, qu'en fait, il soit une personnification des traumas des gamins, en fait, du gamin, et que du coup, c'est comme si le Jumanji avait ce pouvoir d'aller creuser dans la psyché et de savoir exactement comment traquer ses proies, en fait. Voilà. Sur la question du masque, c'est ce que je peux dire. Je pense que c'est comme ça qu'il faut, c'est une piste d'interprétation. Il faut pas chercher le masque effectif. C'est vrai qu'on est clairement pas dans un masque, pour reciter Robin Williams, on est clairement pas dans un masque comme dans Mrs. Doubtfire. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus symbolique, de beaucoup moins immédiat peut-être que les masques qui caractérisaient Spider-Man ou Mrs. Doubtfire.
Oui, clairement. Clairement, et je trouve super intéressant tout ce que tu dis par rapport à la différence des masques qui sont présentés. Et je trouve que c'est super intéressant d'envisager ce développement. Alors, je pense qu'on pourrait passer des heures sur le développement autour de Van Pelt et du père Parrish. Il y a cette figure du chasseur. On ne se pose pas la question dans la série animée. C'est l'antagoniste. Point. Ce sera toujours l'antagonisme. Dans les séries animées, en général, où c'est assez répétitif, j'ai par exemple un truc dont je me souviens là comme ça, quand on parle de dessins animés qui se passent dans la jungle, je pense au Marsupilami, tu vois, qui a toujours le tigre ou le chasseur qui le poursuivent et point, voilà, il doit lui jouer des mauvais tours et fuir. Pour Van Pelt, c'est un peu le cas. J'ai trouvé intéressant ce que tu disais par rapport au fait que la jungle allait dans la maison à partir du moment où Peter trichait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le cas dans la série d'animation où il ne triche pas, mais c'est le troisième épisode de la première saison. Peter manque de se faire avaler par le jeu parce qu'il veut devenir un Manji. Les Manji, donc, c'est les guerriers de la série, les petits guerriers de la série masqués. Et il subit une transformation qui fait qu'il devient masqué à son tour. Et en fait, l'épisode se résout alors que on comprend que Peter devient un Manji par colère. Parce qu'il s'était disputé avec sa sœur. Et il était on peut envisager ça d'un œil entre guillemets adulte et un peu psychanalysant, mais il était en train de se chercher, de chercher son identité, en fait. En très, très gros, c'est ça. Et l'idée du masque, c'est toujours celle de l'identité, c'est toujours celle d'essayer de voir comment on va se présenter au monde. Et je trouve que dans le film, c'est très différent, le masque, que ce soit pour les personnages masculins et pour les personnages féminins. Pour les personnages masculins, c'est du maquillage à chaque fois. Alan jeune et Alan plus âgé, Alan de la jungle et Alan en civil, Peter qui devient un petit singe, le père Parrish qui devient Van Pelt, tout ça c'est fait avec du maquillage. Moi pareil, hein. J'ai percuté que c'était le même acteur en le revoyant adulte. Enfant, tu ne fais pas la différence. Enfin, peut-être qu'il y en a qui ont fait la différence et dans ce cas bravo, mais moi c'était pas mon cas. Il y a un autre type de masque qui est celui du masque des personnages féminins qui sont très peu répandus dans le film. Il y a le personnage de Judy et il y a le personnage de Sarah. Et c'est des masques qui sont différents, c'est des masques de parole. Sarah, au départ, quand il la cherche, il ne la trouve pas. Il la trouve en pensant à raison d'ailleurs qu'elle habite toujours au même endroit. Mais son nom n'est pas marqué sur la porte. Le nom qui est marqué, c'est le nom de Madame Serena, qui est devenue médium. Et le fait qu'elle change d'identité pour se présenter au monde, ça dit quelque chose du traumatisme qu'elle a subi et dont je vais parler un petit peu après. Judith, on remarque Judy, on remarque qu'elle passe son temps à mentir. Elle est tout le temps en train de raconter des bobards pour une bonne raison entre guillemets, à savoir sortir les autres d'un mauvais pas. Quand il s'agit de défendre Alan qui commence à avoir rapidement des soucis avec les autorités, elle prétend que c'est un membre de la famille qui vient d'Amazonie, qui fait des actions humanitaires. Elle invente tout ça très très rapidement. À un moment donné, quand il se lance dans la partie et alors qu'ils sont censés aller à l'école, le téléphone sonne et on demande où est Judy. Et Judy répond, mais sans broncher. Qu'est-ce qu'elle répond déjà ? C'est une erreur de numéro. Voilà. Mais sans broncher. Et Judy a une... C'est dommage que ce soit pas plus exploité dans le film, parce qu'elle a vraiment une capacité à retourner la situation à son avantage et à en racontant des bobards, en fait. Et c'est comme ça qu'elle arrive à s'en sortir. Donc au niveau du masque, comme tu dis, c'est pas forcément un masque en termes de maquillage, en termes d'objet. C'est un masque qui peut être aussi... fait à partir de la construction d'un autre personnage. Ça, je trouve ça super intéressant et c'est dommage que ce soit pas plus poussé. Après, étant donné que ça a été inspiré d'un livre pour enfants, je peux comprendre qu'on soit pas allé beaucoup plus loin. J'ai trouvé aussi très intéressant le fait que tu évoques plusieurs fois le fait que ce soit un jeu maléfique. Et c'est vrai que quand je l'ai vu petite, donc j'avais... c'était en 2000. Je me souviens, c'était à la télé. Donc, j'avais 7 ans. J'étais terrifiée. Le film m'a terrifiée. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le finir. Parce qu'il m'a vraiment terrifiée à l'époque. J'avais regardé avec ma petite sœur et vraiment, c'était terrifiant. Il y avait une tempête en plus dehors à ce moment-là. C'était terrible. Bref. Vraiment, vraiment la bonne ambiance pour regarder un film un petit peu effrayant comme ça pour les enfants. Et à certains égards, ce film est très dans une ambiance chair de poule, ambiance années 90 en fait. Par plein d'éléments, tu parles de ce jeu maléfique, tu parles du fait que personne n'ait percuté l'existence du jeu avant Peter et Judy. Je me demande si le tambour du jeu n'est pas perceptible que par les enfants. Parce que dans le film... À un moment, il y a des adultes et des enfants dans la maison, l'agent immobilier et la tante Nora, et donc Peter et Judy, les adultes n'entendent rien du tout. Par contre, les enfants entendent. Et au départ, Judy pense être la seule à entendre le jeu, et elle se rend compte que Peter entend le tambour aussi. Et ça me rappelle un autre truc qui est le livre, et le film d'ailleurs, inspiré de l'œuvre de Stephen King, où il y a particulièrement dans le film, le remake là pour le coup, les enfants sont sujets à un certain nombre de visions absolument terribles, qui ne sont pas visibles par les autres. Et je me demande justement si ce tambour, et c'est horrible, hein, si ce tambour n'est pas perceptible uniquement par les enfants. Mais bon, c'est je n'ai pas d'argument beaucoup plus prégnant pour affirmer ça. Là où je trouve que c'est vraiment très horrifique, c'est que cette maison, qui est le lieu principal, clairement, des films d'horreur, cette maison se transforme. On est d'abord dans la grande maison dans laquelle il y a eu un meurtre horrible. La rumeur qui fait qu'elle n'est pas réachetée pendant 26 ans, c'est que le fils a été tué par son père, découpé en petits morceaux et caché dans les murs, quand même. Hein. Donc, c'est horrible. Cette maison est très grande, très froide. Il rentre, les meubles sont recouverts de draps. Et quand la jungle la gagne, elle lui donne presque de la chaleur. La toute première fois qu'il rentre, après avoir vagabondé dans la ville et vécu plein d'aventures, on est presque dans un temple elfique, limite. C'est presque féerique. On a les feuilles qui tombent du plafond, il y a des trucs qui se baladent, on entend des cris d'animaux et tout ça fait de la maison vraiment un Jumanji à part entière. Et je sais pas si c'est volontaire, j'ai pas lu le livre, il faut vraiment que je le lise. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est par manque d'effets spéciaux, mais tu as fait une remarque qui est très juste, c'est qu'il rentre dans Jumanji sans avoir besoin de rentrer dans le jeu. Sans doute par manque de moyens. On n'avait pas trop à l'époque les dispositifs qui permettaient de mettre en place tout ça. Du moins pas facilement, parce que c'était possible hein, à l'époque. Hein. La science-fiction est passée par là. Mais on a vraiment Jumanji, on n'a plus Jumanji qui accueille le joueur, on a Jumanji qui vient au joueur. Notamment, et ça c'est l'un des premiers trucs, c'est l'invasion d'animaux. Il y a des insectes, des singes, des lions, des crocodiles. En fait, tout le safari des animaux tueurs du cinéma bis. Horrifique. La séquence la plus effrayante, encore aujourd'hui, hein, j'ai revu le film pour l'épisode, la séquence des plantes tueuses, elle est terrifiante. La grosse plante jaune qui manque d'avaler Peter, donc c'est un animatronique, pour la petite histoire, c'est pas de l'effet spécial, comme le crocodile et le gros pélican et les araignées et une des chauves-souris du début du film. Il y a beaucoup d'animatroniques dans le film. Cette séquence des plantes tueuses, elle est cinéma bis as fuck. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, tu en as parlé au départ, c'est le traitement du traumatisme. Je ne l'ai pas perçu quand j'étais plus jeune, mais quand tu le revois adulte, cette séquence est très très forte. Au début, Sarah, quand ils viennent la retrouver, évidemment, elle ne veut pas jouer parce que sa première expérience l'a traumatisée. Et il y a un court dialogue avec Alan qui insiste un peu trop, avec un ton très doucereux, où il essaie limite de la prendre comme une enfant, et où il compare leurs expériences traumatiques. Et au sein de la même scène, t'as l'expérience traumatique, entre guillemets, physique de Alan, qui a été aspiré par le jeu et qui a passé 26 ans à survivre dans la jungle à cause de son « erreur », entre guillemets. Et t'as l'expérience traumatique, entre guillemets, psychologique de Sarah, qui a passé 26 ans à survivre dans un monde, le monde réel, où tout le monde pensait qu'elle était folle parce que personne ne la croyait. Et leur dialogue, aujourd'hui, en 2024, est un peu limite parce que Alan a cette manière d'invalider son ressenti. Il a une manière de dire « Mais moi, c'était pire parce que j'étais dans la jungle, j'étais tout seul. » Et Sarah lui répond « Mais moi aussi, parce que personne ne m'a cru. » Et on a Peter et Judy qui écoutent toute cette conversation et qui comprennent pas ce qui se passe, parce que c'est des enfants. Mais en tant qu'adulte, c'est pas très compliqué de faire un parallèle avec certaines situations un petit peu plus sombres que pourrait vivre un personnage féminin et qu'un personnage masculin ne comprendrait pas forcément. La scène n'est pas écrite dans ce sens, mais elle a une résonance qui est intéressante et pas voyeuriste, pas dramatique au possible, parce qu'on a des adultes qui ont une discussion d'adultes. Malheureusement, ce genre de choses n'arrive pas qu'à des adultes, mais ils ont une discussion d'adultes en face d'enfants qui comprennent mais absolument pas ce que ces deux personnages ont vécu pendant 26 ans. Et eux, ils veulent juste jouer, ils veulent juste finir la partie, ils ont une forme de curiosité et d'envie de l'aventure. Et ce parallèle qu'il y a entre la curiosité et l'envie de l'aventure, et cette lassitude et cette conscience des conséquences que peuvent avoir certaines aventures une fois qu'on a grandi avec des traumatismes, fait de cette scène quelque chose au début un peu limite, parce que quand même, il la force à jouer, hein, et en même temps, à certains égards, intéressante. Ce jeu, comme tu dis, est vraiment maléfique. Cette bruit de tambour donne vraiment l'impression d'une chose annonciatrice, de quelque chose de mauvais, un peu comme le bruit qui est relié à un monstre dans un jeu vidéo, par exemple, une force agissante qui annonce en fait la présence d'un monstre. Il a un rapport intrinsèque avec la pendule qui sonne dans la première période temporelle du jeu. Et c'est le cas au début, mais pas du tout à la fin. Alors, on comprend par la suite que le jeu a un rapport avec le temps, parce que clairement, c'est une machine à voyager dans le temps, le bail, hein, quand tu restes coincé. Et c'est dommage que ça n'ait pas été plus poussé, je trouve.
C'est vraiment captivant ce que tu dis. Moi, ça m'aide encore aujourd'hui à comprendre des trucs, tu vois. Alors, du coup, pour revenir au personnage d'Alan et de Sarah, déjà, je pense que le film tient une partie de sa douceur et de son côté familial, malgré toute cette dimension que tu as préciser, notamment par rapport à l'horreur et aux scènes traumatisantes, je pense que le personnage, mais vraiment au sens strict de Robin Williams, fait beaucoup. C'est Robin Williams,
oui.
C'est pas un autre acteur. Ça
ouais,
aurait pu être
vrai.
Un autre. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont été pressentis, notamment Schwarzenegger, notamment Alec Baldwin. Mais, comme tu l'as dit, le film a plusieurs fois été réécrit pour que Robin Williams accepte. Et Robin Williams a quand même cette capacité incroyable à... C'est vraiment pour moi un acteur complet qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et voilà. C'est, pour moi, c'est le film qui m'a fait adorer Robin Williams avant même Madame Doubtfire. Mais là où il est génial, c'est qu'il assume un double rôle. Comme tu l'as dit au départ de la relation entre Sarah et Alan, Alan se comporte comme un connard. Mais vraiment,
ouais.
c'est-à-dire que normalement, quand on triche, le jeu sanctionne. Et il va avoir un rôle de trickster. Je rappelle, hein, le trickster dans la mythologie, c'est celui qui joue des tours, c'est le mauvais plaisantin. Loki est un trickster très célèbre, par exemple. Mais là, Alan, alors qu'elle Sarah explique, et à juste titre, qu'elle est complètement traumatisée, qu'elle a passé sa vie à l'oublier, même à se persuader que tout ce qu'elle avait vécu n'avait même pas existé, alors que Alan entend cette parole qui se libère après 26 ans, il lui dit « Tu peux rentrer chez toi, donne-moi les dés », et là, il va faire exprès de laisser tomber les dés au travers de sa main, enfin au travers de ses doigts, pour forcer Sarah à jouer. Cette scène qui dure, mais une quinzaine de secondes, est d'une violence sans nom. Mais vraiment, c'est... En cela, au départ, Alan est un agent du Jumanji. Il est tout aussi inexcusable, il est tout aussi dangereux que Van Pelt. Réellement. C'est d'une violence sans nom parce que, en plus, il se marre, il est très content de sa blague et il lui dit « c'est la loi de la jungle ». Il lui sort « c'est la loi de la jungle ». Alors que cette femme a passé sa vie entière à se battre contre certainement vents et marées de gens qui la prenaient pour une tarée. Vraiment, avec le recul, cette scène est d'une violence sans nom. Vraiment. Et Alan va s'humaniser petit à petit. Pourquoi ? Parce que moi, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué en VF, hein, bien sûr. C'est un film typiquement, on a vu en VF. Hein. Ça fait partie des VF qui marquent, hein, avec Michel Papinecci pour le rôle d'Alan, qui bon, malheureusement nous a quitté lui aussi, mais qui est un grand doubleur, grand comédien. Mais la phrase qui pour moi résume tout le trauma d'Alan et toute sa vie, c'est quand Peter prend tarif dans ce film, dans le sens où il porte la culpabilité d'avoir triché, de se transformer en singe, il porte la culpabilité de ne pas avoir attrapé le jeu quand le pélican l'a chopé. Bref, et Alan lui fait prendre tarif. À un moment donné, Sarah lui dit, lui fait comprendre que c'est un gamin. C'est un gamin et on peut pas le charger de toute la culpabilité du monde. Et Alan finit par avouer à Peter, j'ai passé 26 ans dans la jungle et je parle comme mon père. Il a tout dit. Il a compris son personnage et c'est à partir de là qu'Alan va commencer sa rédemption puisque Alan devient une figure paternelle de substitution pour Peter. C'est à partir de là qu'il va s'humaniser, qu'il va se paternaliser, on pourrait dire. C'est à partir du moment où il comprend que Peter était un gamin qui a cru bien faire, tout comme lui, finalement. Et que Peter n'a pas apporté sa culpabilité par procuration. Et là, Alan va commencer à s'humaniser, il va commencer à comprendre qu'effectivement, il ne faut pas seulement finir la partie, il faut aussi sauver ses compagnons des dangers de la jungle. Il n'y a qu'un seul homme qui peut le faire, enfin qu'un seul personnage, qu'un seul individu qui peut le faire, c'est lui précisément. Parce que rappelez-vous, le personnage de Peter, il n'est pas négligeable, hein, pas du tout. C'est lui qui parvient à convaincre Alan de jouer. Au départ, Alan ne veut pas jouer. Au départ, Alan est complètement égoïste. Alors on peut l'entendre dans le sens où il a passé 26 ans dans la jungle et que oui, il aimerait bien faire caca sans s'essuyer avec des feuilles de bananier, comme il le dit. On peut tout à fait l'entendre. Par contre, au départ, il connaît parfaitement les dangers du Jumanji, mais il s'en fout. Il ne veut pas aider les gosses. Et d'ailleurs, le discours qu'il leur tient est terrifiant aussi quand il leur dit « J'ai vu des choses que tu n'as vues que dans tes cauchemars, j'ai vu des trucs, j'ai, j'ai entendu des choses ramper et tu les entends manger et tu pries Dieu de ne pas être le dessert. Ça fait un peu penser à la phrase que sort un autre Alan, Alan Grant, dans Jurassic Park, au gamin qui se moque des Vélociraptors. Et il lui dit mais il pourrait t'ouvrir le bide et te manger les boyaux. Donc essaie d'avoir un peu plus de respect. C'est exactement la même scène traumatique quand il lui dit, quand Alan, l'autre Alan, Alan Parrish, dit à Peter, tu n'as aucune idée de ce que c'est que la peur. Je rappelle qu'il parle à un gamin qui a perdu ses parents. Genre, il lui dit, tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être traumatisé. Pendant toute une partie du film, on croit que Peter ne peut pas parler. Et encore une fois, il y a un rapport aux adultes, puisqu'il refuse de parler aux adultes. Il ne parle qu'à sa sœur. Je veux dire, Peter et Julie sont des gamins traumatisés et Alan leur met tarif. Et du coup, voilà, il y a quand même, effectivement, comme tu l'as dit, une forme de violence intrinsèque dans ce film qui, effectivement, me transperce les yeux maintenant que tu l'évoques.
Oui, mais c'est encore une fois quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, tu vois, quand on est enfant. La séquence avec Sarah m'a sauté aux yeux quand je l'ai vue en tant qu'adulte. Je sais que le scénario de Jumanji est très carré et que c'était et que Robin Williams d'ailleurs il n'était pas d'accord avec ça parce que tu sais comme moi qu'il adore improviser. Je n'ai pas réussi à trouver laquelle. Je sais qu'il y a une séquence avec Sarah qui a été qui est le résultat d'une improvisation. Je ne sais pas laquelle c'est. Est-ce que c'est celle-là? Je sais pas. Mais cette séquence en particulier, je trouve qu'elle fait partie des plus fortes, comme tu dis, parce qu'elle est très très violente. L'histoire des dés, c'est pas sympa.
Bah non, ah non, c'est un, pardon, mais c'est un coup de pute, faut dire ce qu'il y a.
Oui, oui, au début, le personnage d'Alan a du mal à se défaire de ses 26 ans dans la jungle, ce qui est compréhensible, de la même manière qu'il a du mal à se défaire de ce côté enfantin. Dans sa tête, c'est toujours un enfant. Dans sa tête, c'est toujours un enfant. Et c'est marrant, entre guillemets, pour deux raisons. À la fin du film, les deux, Sarah et Alan, redeviennent enfants, ils repartent dans le passé. Et Sarah embrasse Alan et pour se justifier, dit « Je vais profiter d'être encore un petit peu adulte pour faire ce que j'ai envie de faire. » C'est mignon, ça pose problème aussi, je trouve.
Oui, un petit peu, c'est des enfants. C'est encore, voilà, c'est quand même des enfants à l'écran.
Voilà, c'est... Bon.
Ouais.
Voilà, bon, j'ai pas épilogué sur cette séquence. Là où je trouve que c'est plus intéressant, c'est que on a un personnage qui est celui d'Alan qui reproduit des comportements qui lui ont été infligés. C'est un personnage qui se fait harceler à l'école, au début du film. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que dans la série d'animation, c'est Peter qui se fait harceler. Et la bande de jeunes, cette séquence de harcèlement est assez difficile aussi, parce que le personnage d'Alan ne peut pas se défendre. Et en fait, il passe son temps à se cacher, il passe son temps dans une autre forme de jungle. Et après, c'est lui qui reproduit tout ce qu'il a vécu, à la fois dans la jungle et à la fois quand il était enfant. Donc au début, c'est un personnage odieux, et comme tu dis, après, il y a une évolution qui ne va pas jusqu'au bout, je trouve. Mais bon, on n'est pas là pour faire la critique du film. Mais dans le jeu des masques, il y a ce côté transformation. Le masque n'est pas figé. Il peut évoluer, il peut s'améliorer, il peut devenir beaucoup plus sombre aussi. Et en fait, j'ai l'impression que les personnages portent différents masques au fur et à mesure du film. Et en parlant de masques, il me paraît important d'évoquer, pour finir, ceux qui n'apparaissent pas dans le film ni dans le livre, mais qui sont bien bien présents dans la série d'animation à partir du générique, ce sont les Manji. Donc les Manji dans la série d'animation, c'est des guerriers féroces qui sont représentés par des masques qui mélangent différents imaginaires par leur comportement, leur apparence et par le langage. Et ça permet de se poser une question que je vais te poser. À ton avis, de quel pays Jumanji est-il inspiré?
Alors, moi, ça me fait quand même pas mal penser à l'Afrique, à certaines régions d'Afrique, notamment avec les masques de Manji, on retrouve un côté extrêmement tribal, je trouve. Mais c'est peut-être peut-être Amazonie, un petit peu. Il y a un côté. Il y a un fantasme de. Tout comme on a les fantasmes de jungle dans Indiana Jones, il y a un fantasme de film d'aventure et de jungle. Tu sais, c'est un peu les récits de voyageurs romancés qu'on pouvait trouver 18e siècle avec ce côté jungle luxuriante, magnifique, mais aussi mortellement dangereux, tu sais, avec ce côté récit de réducteurs de tête, récit de tribus sauvages qui dévoraient la chair humaine. Enfin, tu vois, cette espèce de fantasme qu'on utilise pour se faire peur, tu vois, pour. Tu l'as évoqué hein, tout à l'heure, le désir d'aventure des enfants. Je pense que oui, on a ce côté un peu, ce racisme exotique, on pourrait dire. Cette espèce de mythe du bon sauvage, tu sais, je ne sais pas trop. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de l'Amazonie, de l'Afrique en général, de l'équateur, jungle équatoriale, même au niveau de la faune et la flore, hein, on a quelque chose qui rappelle un petit peu ce continent, cette partie du monde. Après, je ne sais pas quel est ton avis, toi, là-dessus.
Alors moi j'ai plusieurs interprétations. J'ai ratissé le web académique pour savoir si quelqu'un avait déjà cherché. Je pense clairement pour l'affirmer, pour qu'on puisse l'affirmer avec assurance qu'il faudrait un spécialiste des masques. Dans est-ce qu'il y a des spécialistes des masques dans la salle? N'hésitez pas à nous contacter. Il nous faudrait le spécialiste des masques du film The Mask, tu vois. Ça serait intéressant. J'ai plusieurs interprétations. J'en ai trois. Tu me diras laquelle est ta préférée. La première, c'est que quand Alan parle de Jumanji au policier qu'il rencontre, Judy donc rattrape le coup en disant qu'il vient d'Indonésie. Et dans ce cas, on pourrait penser aux masques baliniens, qui sont célèbres pour leur forme particulière, pleine de couleurs. Première interprétation, la plus évidente, comme tu dis, c'est celle du continent africain, puisque c'est de là que viennent les chauves-souris qui sortent de la cheminée. C'est aussi le continent qui est évoqué par la forme des masques de la série d'animation, pardon, avec des masques qui sont faits en bois, d'une certaine taille, et qui ont diverses significations, selon la forme et la taille qu'ils ont. Donc il faudrait une analyse très précise des masques de la série. Mais toujours est-il que c'est l'une des interprétations les plus probables qu'on peut approfondir par l'utilisation de la langue des Manji, qui dans la série d'animation est faite de clics et de claquements, qui est une particularité des langues Khoisan ou des langues Khoi, qui sont des langues africaines parlées en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie et en Angola, par les peuples Khoikhoi et Bochiman. C'est une interprétation possible, c'est entre guillemets la plus logique. La seconde interprétation qu'on peut faire, c'est à partir de l'uniforme de Van Pelt, que tu as tout à fait identifié comme un uniforme colonial de l'armée britannique, qui est porté par les colons au XVIIIe et XIXe siècle. Rappelons que le film se passe en Nouvelle-Angleterre, donc c'est une partie des États-Unis avec un très très fort héritage colonial. Pour resituer un petit peu, au XVIIIe siècle, entre 1754 et 1763, c'est la guerre qu'on appelle la guerre de 7 ans, contre les Français et les Indiens d'Amérique. Et au cours de cette guerre, les Français perdent le Canada. Et les Anglais le récupèrent et ils souhaitent coloniser les lieux qui sont laissés vides par les alliés français. À savoir les Indiens algonquins, les Indiens iroquois ou les Sioux. Et ça se passe pas tout à fait comme ça, mais là où je veux en venir, c'est que les alliés indiens sont repoussés au-delà d'un territoire qui s'appelle les Appalaches. Les Appalaches, c'est une chaîne de montagnes qui est située dans l'est de l'Amérique du Nord et il s'étend de Terre-Neuve au nord jusqu'au centre de l'État de l'Alabama, donc au sud. Et elles ont une particularité, ces chaînes de montagnes, c'est qu'elles sont très très anciennes, à tel point qu'elles existaient alors que les continents tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. C'est à l'époque où il y avait un seul gros continent sur la Terre. Et ces montagnes se sont façonnées il y a des milliards d'années à force de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, etc., pour créer une topographie très très particulière, faite de forêts très épaisses et de marécages. Ces montagnes sont quasiment inhabitables, quasiment inexploitées, et elles sont donc super bien préservées. Elles ont donc construit pendant des millions d'années tout un écosystème qui permet d'y croiser plein d'espèces d'animaux différents. Et des plantes de toutes sortes, y compris des grosses plantes carnivores. Et en fait, cette chaîne de montagnes, c'est une source intarissable de légendes sur les cryptides, ces monstres qui alimentent encore aujourd'hui des blogs de creepypasta, des comptes TikTok sous le hashtag Haunted Alapatia, les Appalaches chantés, ou encore des romans d'horreur comme ceux de l'autrice Ursula Vernon, qui les décrit ainsi, et je vais la citer en bonne chercheuse. Les Appalaches avec leurs innombrables vallons, leurs pentes à la végétation dense, leurs sources qui jaillissent de nulle part pour mieux disparaître, forment un paysage bien mystérieux. C'est un lieu que le diable peut arpenter, où vous pouvez vous égarer en suivant d'étranges lumières, où vous pouvez croiser quelque chose qui ressemble à un cerf, mais qui ne se déplace pas comme tel. Donc pour le passé colonial, ça peut être une interprétation possible. Il y a une dernière interprétation, qui est la plus bancale de toutes, mais qui est très en lien avec le monde d'aujourd'hui, et qui est aussi ma préférée. C'est celle qui peut être commune aux livres, aux films et à la série d'animation. Dans les trois, les épreuves qui sont traversées par les protagonistes sont marquées par le débarquement d'animaux sauvages en ville, qui viennent foutre le bazar. Et il y a donc une apparition, dans des milieux tempérés, de races animales et d'espèces végétales surdimensionnées qui n'auraient rien à faire ici, comme par exemple la séquence avec le gros moustique là, qui détruit quasiment la voiture. Alors si on veut rester dans les croyances spirituelles, on peut parler des plaies d'Égypte, mais si on veut rester dans le plus actuel, des animaux qui débarquent alors qu'ils ne sont pas censés être là, comme s'ils avaient émigré de force, je veux parler bien sûr du réchauffement climatique. Et c'est quelque chose qui est sous-entendu par deux personnages dans le film. À trois quarts d'heure à peu près, les protagonistes ont fait débarquer des singes, donc qui mettent le chaos dans toute la ville. Ils rentrent à la maison, et Judy donc frappe à la porte de la salle de bain où Alan est en train de se raser. Et elle lui pose une question très précise. À ton avis, quel effet auront les singes sur l'écosystème de la région ? De même, beaucoup plus tard dans le film, quand les protagonistes lancent les dés dans la maison, donc ils déclenchent la mousson. Et Sarah dit « Oh, c'est une petite pluie, ça peut pas faire de mal !» Et Alan répond « Non, mais une grosse pluie, ça peut te tuer !» Donc bon, on est en 95, hein, on s'en souciait pas autant qu'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un petit message là-dessous. Pourquoi je parle des variations climatiques ? C'est parce qu'à la fin du film, il y a une scène avec des personnages féminins, tout à la fin du film, qui trouvent le jeu sur une plage. Ces personnages féminins, ils parlent espagnol dans la version française et ils parlent français dans la version originale. Dans le cas où on garde l'espagnol, et que je reprends mon histoire de colonisation, les Espagnols, ils ont colonisé au XVIe siècle le Mexique pour en chasser les Aztèques. Bien avant eux, il existait une autre civilisation de guerriers célèbres pour sa violence, ses rituels funéraires avec des masques de jade ou pour leur architecture, c'est les Mayas. Et les conquistadors espagnols sont arrivés dans les années 1500 sans se soucier des vestiges que les Mayas avaient laissés. Si bien qu'il faut attendre le 19e siècle, donc le siècle de Van Pelt, le siècle dans lequel vivent les petits-enfants du tout début du film qui se débarrassent du jeu, pour trouver des vestiges de cette civilisation. Et quelle est la grosse pierre centrale, sertie dans le plateau du jeu, où apparaissent les messages mystérieux ? Une pierre de jade. Et là où ça devient encore plus mystérieux, c'est qu'on n'arrive pas encore à expliquer précisément comment et pourquoi la civilisation maya classique a disparu. Parce que l'hypothèse principalement retenue, c'est que la destruction de la forêt tropicale par les Mayas aurait fait augmenter la chaleur du climat, baisser les précipitations, et donc provoquer une sécheresse. Donc la chute des cultures du maïs, principal aliment des Mayas, et donc leur extinction progressive à cause d'un dérèglement climatique. Donc ça peut être plein de choses, je ne sais pas quelle interprétation est vraie. En tout cas, toutes sont très chouettes, je trouve. Ma préférée, c'est la dernière. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses.
Alors, bah, déjà, j'ai envie de dire drop the mic, parce que, franchement, ce que tu viens de faire est incroyable. J'aurais pu t'écouter des heures. Il faut. Je sais pas si tu tires ça d'un article déjà fait, mais franchement.
Pas du tout. J'ai tout écrit moi-même. J'ai fait un gros délire toute seule. Donc, si un spécialiste des masques, venez s'il vous plaît. Je veux savoir d'où viennent ces masques.
Ah, mais fais-en un article par pitié. Qu'est-ce que j'ajoute à ça ? C'est passionnant, ça. Toutes mes félicitations, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, ça me fait voir le film d'une manière mais complètement différente. C'est ouf.
Je dis des grosses conneries. Il y a des historiens qui vont me dire tu racontes des bêtises.
C'est possible aussi. Je sais pas non plus. Et répondez-nous si vous le pouvez. Mais en tout cas, les hypothèses que tu avances sont très intéressantes. Qu'elles soient valides ou non, ça reste. Franchement, ça reste au groupe, quoi. Donc, bravo à toi. C'est incroyable ce que tu as fait. Moi, personnellement, effectivement, la deuxième et troisième me plaisent beaucoup. Je me sens proche des deuxièmes et troisièmes, surtout de la troisième. Et puis, il y a un côté... du coup, ça donne à Van Pelt... alors, Van Pelt, c'est marrant, ne s'intéresse pas... Alors que c'est un chasseur, ne s'intéresse pas du tout aux animaux.
Non.
Mais vraiment, il est focus sur Alan. Et s'il s'était intéressé aux animaux, il aurait eu un côté régulateur, tu vois, de l'écosystème. Et c'est surprenant hein, que Judith se pose la question en mode écologique, parce que tu ne la vois pas se poser ce genre de questions. Pourquoi elle lui pose maintenant ce genre de questions? Et d'ailleurs, Alan ne répond absolument pas. Donc, Alan s'en fout, en fait. C'est vraiment...
Oui, bah, mais, oui parce qu'on ne s'en souciait pas trop en 1960.
Voilà, tout à fait. Mais du coup, oui, c'est assez, assez incroyable, en effet. Et puis même le côté complètement dévastateur... Même les araignées, alors si vous êtes arachnophobe, vous êtes servi. Hein,
oui. Avec parce les, qu'elles sont bien faites. Hein.
Ouais, elles sont bien faites. Et puis, c'est pas des petites, hein, c'est vraiment des gros machins. Ça fait un peu penser. Ah ben, ça fait un peu penser à la babouk de la Réunion. Les babouks,
oui, c'est énorme ces trucs.
c'est des araignées sauteuses en fait, très répandues à la Réunion. Et ouais, c'est des bonnes bestias, ça aussi.
Donc ouais, c'est complètement inoffensif. C'est énorme.
Alors c'est inoffensif jusqu'au moment où vous les cherchez et où elles vont se mettre à sauter effectivement. Mais pareil, si vous êtes arachnophobe, ouais, faut pas y aller quoi. Parce que c'est pas des petits trucs, hein, c'est vraiment des gros machins, les babouks. Donc ça y fait un peu penser aussi. Et puis il y a le côté. Alors c'est une scène très très courte, mais il y a le côté empoisonnement aussi. Avec notamment les plantes. Alors, oui. Tu l'as dit, hein, les plantes carnivores jaunes sont terrifiantes, mais les petites violettes sont empoisonnées, Alan leur dit. Et il y a un moment, et d'ailleurs, c'est triste que cette scène ne soit pas plus exploitée, où Judith se fait empoisonner par, une des plantes. Et disons que le jeu se termine quasiment après, donc elle est sauvée de facto, mais du coup il y a ce côté où vraiment elle tombe dans les pommes quoi. Elle tombe dans les pommes,
oui.
et tu comprends qu'en fait elle aurait certainement pu mourir parce que précisément on pense que c'est un poison. Et même d'ailleurs t'as même le côté pandémique avec les moustiques parce que les moustiques qui piquent les gens dans le film on apprend qu'il y a une soixantaine de personnes qui se font piquer. Le film, oui. Grosso modo, court sur une journée, voire même une demi-journée. Donc, tu as vraiment ce côté invasion pandémique. Alors, on n'en est pas à parler du Covid, hein, loin de là, mais simplement, on a cette idée de pandémie qui vient de l'exotisme, de loin, le côté viral des pays un peu méconnus, un peu mal compris. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, ouais, qui court. Mais voilà, passionnant. Si vraiment vous avez des éléments de recherche, de confirmation, des billets de confirmation là-dessus, écrivez-nous parce que moi, franchement, c'est passionnant. Voilà.
Oui, venez, manifestez-vous. Je vous mettrai dans la description les articles de National Geographic qui m'ont permis de poser la réflexion, notamment sur la légende des Appalaches, qui a l'air passionnante. Et pour les Mayas, on trouve honnêtement très, très peu de choses parce qu'on ne sait pas, en fait. Hein, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais il y a plus de recherches que pour le reste. Donc voilà, s'il y a des spécialistes... venez, s'il vous plaît, manifestez-vous sur les réseaux sociaux, manifestez-vous où vous pouvez, parce que très clairement, on veut savoir, clairement. Moi je veux savoir d'où viennent ces masques. Ça se trouve, c'est juste des inspirations bateau, mais je pense qu'il y a plus que ça.
C'est passionnant.
merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre soutien, ça nous fait super plaisir. On espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura permis de découvrir ou de... Et c'est plus probable redécouvrir le film. Donc, je vous mets dans la description de la vidéo toutes les petites choses qu'on a citées. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la partager autour de vous. S'il y a encore une fois des spécialistes des masques dans la salle, n'hésitez pas à venir vers nous. On va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!
À plus!